Bien, eh bien, il me reste donc l'agréable devoir de présenter le conférencier de cet après-midi, donc Christian Sommer, Christian Sommer, puisqu'il a la chance d'être bilingue, et philosophe. Il est actuellement chargé de recherche au CNRS et attaché à l'École normale supérieure, plus précisément aux archives Husserl, si je ne me trompe. Alors, il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Le premier qui l'a fait connaître, et qui me l'a fait connaître, puisqu'il s'agissait d'une thèse au jury duquel j'avais l'honneur d'être, et s'appelle Heidegger, Aristote, Luther, les sources aristotéliciennes et néo-testamentaires d'être et temps. C'est paru en 2005 aux presses universitaires de France. C'est une étude très poussée des lectures, des influences, des reprises effectuées par le jeune Martin Heidegger lorsqu'il préparait ce qui est peut-être resté son chef-d'œuvre, en tout cas le livre qui l'a fait, qui l'a rendu quasiment du jour au lendemain célèbre partout où l'on lit l'allemand, à savoir « Être et temps ». En 2013, Christian Sommer a publié un petit texte qui s'appelle Heidegger 1933 sur le tristement célèbre discours de rectorat que Heidegger avait prononcé bien au moment de prendre la charge de recteur de l'université de Fribourg en Breisgau. Le sous-titre indique la thèse, le programme platonicien du discours de rectorat. Ce n'est peut-être pas pour rien que les derniers mots du texte de Heidegger sont empruntés à la République de Platon, ta megala panta episphalae, hein, partout où il y a de grandes choses, le terrain est glissant, me permettrais-je de traduire. En 2017, il a publié « Mythologie de l'événement, Heidegger avec Hölderlin », la question « Dans quelle mesure la découverte, la lecture et la prise au sérieux de la poésie de Hölderlin a orienté Heidegger dans les années, fin des années 20, début des années 30, dans des voies nouvelles. Christian Sommer s'est également fait connaître comme traducteur, d'abord par une retraduction chef-d'œuvre de Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation. Et puis enfin, très récemment, il a traduit le gros livre de Arnold Gehlen, qui est un traité d'anthropologie, qui s'appelle « L'homme » d'ailleurs. Le titre est assez clair. Alors je me suis adressé à Christian Sommer pour lui poser la question suivante. Nous nous intéressons cette année, enfin j'espère que ça vous intéresse vous aussi, à la notion de salut que j'ai formulée en la réduisant, plutôt en l'élargissant, au moyen de l'infinitif du verbe « sauver », équipé prudemment d'un point d'interrogation. Nous avons déjà vu, grâce à un exposé fait par Paul Colra, que la notion de salut, le verbe « sauver », pouvait avoir un sens aussi en philosophie et ne se réduisait pas à la religion. Alors nous avons vu comment Platon définissait le bien comme ce qui sauve, ce qui préserve, ce qui sauvegarde, enfin comme on voudra traduire. Nous avons vu comment Spinoza, à la fin de l'éthique, expliquait la béatitude qu'il pensait atteindre par des moyens philosophiques, comment il a exprimé cette notion en employant le latin salus, donc vraiment le salut. Pour ne donner que deux exemples. D'autres exemples pourraient, si l'on voulait jeter les filets un peu plus loin, nous attraperions peut-être certains aspects de la pensée de Wittgenstein, pour lequel la philosophie avait une fonction thérapeutique, donc il s'agit de sauver, du salut, de la santé en tout cas, de l'esprit. J'ai moi-même, à l'occasion de ces recherches, découvert un texte que je n'avais pas découvert, pour moi, un texte que je n'avais pas lu, sur le fameux tableau de Cébès, qui est dans l'Antiquité d'à peu près le deuxième siècle de notre ère, la description justement d'un tableau allégorique et dans lequel il est question à une dizaine de reprises du salut du philosophe, enfin du salut obtenu par la philosophie. Or, il se trouve que dans les années 60, je crois, à la fin des années 60, un philosophe que certains considèrent comme l'un des plus grands du XXe siècle, Martin Heidegger, a donné à un hebdomadaire allemand très connu, Der Spiegel, une interview dont il voulait qu'elle ne fût publiée qu'après sa mort, dans lequel nous lisons la phrase éminemment énigmatique, eh bien, qui est maintenant affichée devant nous au tableau, à savoir « Seul un Dieu peut encore nous sauver ». Alors, de quoi s'agit-il ? L'idée est-elle originale ? Enfin, de quel Dieu il s'agit ? Étant donné que c'est un Dieu avec un article indéfini et donc une minuscule, est-ce que cela se replace dans une tradition philosophique et poétique allemande, le nom de Hölderlin servant ici de symbole pour la présence éventuelle de cette tradition. Bon, j'ai donc demandé à Christian Sommer de traiter la question et je lui donne donc avec reconnaissance la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Rémi Brague, Mesdames, Messieurs. Je suis très heureux de pouvoir parler de ces thématiques peut-être un peu obscures. Alors, je vais essayer de ne pas ajouter des ténèbres à l'obscurité déjà du texte de Heidegger. Vous en jugerez. Alors, certains interprètes de Heidegger ont vu dans cette phrase « Seul un Dieu peut encore nous sauver » une réminiscence de Cicéron, qui, le 29 janvier 49 avant Jésus-Christ, écrivait ceci à Tiron, son secrétaire, « In eum locum res deducta est ut. Les choses sont telles que, nisi qui deus vel casus aliquis subvenerit, à moins que quelque dieu ou quelque hasard ne vienne à notre secours, salvi esse nequeamus. Rien ne peut nous sauver. » Alors, César venait de franchir le Rubicon, déclenchant la guerre civile. Mais, à vrai dire, Heidegger n'était guère lecteur de Cicéron. Par ailleurs, je pense qu'une simple référence ne saurait tenir lieu d'explication. Selon moi, cette phrase de Heidegger, « Seul un Dieu peut encore nous sauver », fait plutôt signe vers sa lecture de Hölderlin, mais aussi de Nietzsche. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Donc, « Seul un Dieu peut encore nous sauver ». Cette sentence, au ton oraculaire, et qui a suscité beaucoup de perplexité, se trouve, comme le rappelait Rémi Brague, dans l'entretien que Martin Heidegger a accordé à l'hebdomadaire Der Spiegel en 1966, entretien publié après sa mort en 1976. Alors, j'ai fait reproduire un extrait de cet entretien dans la traduction de Jean Launay de 1977 dans l'exemplier. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Cette phrase a même été placée en titre de l'article. Alors, dans le contexte du présent séminaire, sobrement intitulé « Sauver », point d'interrogation, la sentence heideggerienne pourrait être conçue comme une réponse à cette question, mais une réponse qui est très loin d'être claire. Alors, je me propose simplement de déchiffrer cette sentence en essayant de m'interroger, entre autres, sur ce Dieu qui est censé pouvoir sauver ce qu'il y aurait à sauver. Et je vais le faire en rapprochant la sentence de Heidegger de ces vers de Patmos de Hölderlin, très connus, trop connus, il est proche et difficile à saisir le Dieu, mais là où est le danger, croit aussi ce qui sauve. Alors Heidegger lui-même a fait ce rapprochement avec Hölderlin dans l'entretien avec le Spiegel, où il expliquait à son interlocuteur, Rudolf Augstein, que sa pensée se tient dans un rapport, je cite, « incontournable » avec la poésie de Hölderlin. Et que Hölderlin est pour lui, je cite, « le poète qui attend le Dieu ». Pour y voir un peu plus clair, il me faudra aller de 1966 aux années 1930 et retour. Car c'est à cette époque que Heidegger élabore un projet assez déconcertant à première vue d'une nouvelle religion hölderlinienne, ou plutôt un projet d'une création des conditions de possibilité pour qu'advienne cette nouvelle religion, par où Heidegger s'inscrit, me semble-t-il, c'est une hypothèse, dans une problématique théologico-politique qui le précède et dont je dirai peut-être quelques mots. Ce qu'il faut interroger également, c'est le lien intime et substantiel entre ce projet et le diagnostic établi par Heidegger d'un nihilisme déployé par le règne de la technique. Déployé par ce qu'il appelle le Gestell dans l'entretien. Un diagnostic qui permet d'éclairer les énoncés de l'entretien et plus particulièrement la phrase qui est ici en question. Donc, seul un Dieu peut encore nous sauver. Et au terme de mon parcours, je vous laisserai juge de savoir si cette sentence proférée il y a plus d'un demi-siècle par cette grande voix du passé, celle de Heidegger, nous parle encore aujourd'hui ou si elle est devenue inintelligible ou inaudible. Alors, je viens de suggérer que le diagnostic que fait Heidegger de notre époque, ou dois-je dire de son époque, est l'une des conditions préalables pour comprendre la phrase « Seul un Dieu peut encore nous sauver ». Je vais donc d'abord examiner ce diagnostic que Heidegger reprend dans l'entretien donné au Spiegel. Notre époque est soumise au règne nihiliste de la technique, dont l'essence, c'est-à-dire le mode opératoire, est ce que Heidegger appelle donc le « Gestell », qu'on pourrait restituer par « dispositif » ou « dispositif computationnel ». Certains ont proposé naguère, dans les premières traductions de Heidegger, le terme de arraisonnement, mais qui me semble un peu moins pertinent car Heidegger a plutôt élaboré le terme à partir du grec thésis, position, pose, placement. Alors Heidegger développe cette notion de Gestell dans certaines conférences données au début des années 1950, dont la plus connue est la question de la technique. Et il n'est pas fortuit qu'il cite dans cette conférence sur la question de la technique les vers de Patmos. Mais là où est le danger, croit aussi ce qui sauve. Et il n'est pas moins fortuit qu'il ne cite pas dans cette conférence publique, exotérique en quelque sorte, les deux vers qui précèdent, il est proche et difficile à saisir le Dieu. Alors la technique moderne, selon Heidegger, fait de la nature un objet technomorphe, c'est-à-dire un objet calculable, mathématisable, conforme à l'usage et à l'exploitation humaine. La nature, dans ce processus d'objectivation technique, est mise au défi. Elle est gestellt, piégée, mais aussi provoquée à raisonner. Et elle n'est pas perçue dans sa croissance propre et spontanée comme la physis grecque. Mais elle est perçue comme possibles matériaux de production mis à disposition de l'homme et de sa volonté d'exploitation illimitée. Bon, ce sont des analyses assez connues de Heidegger sur la technique du début des années 1950. Et ce circuit de la production qui met universellement à disposition ce qui est, le Gestell donc, constitue pour Heidegger l'essence de la technique moderne, c'est-à-dire le mode de son déploiement comme dévoilement déterminé de l'étant, c'est-à-dire de ce qui est, de ce qui se donne à nous. Autrement dit, la technique est une figure ou constitue le visage de la vérité, une manière de dévoiler, au sens que la vérité est une manière de dévoiler, de faire voir l'étant comme un objet mathématisable. Et ce mode de déploiement, cette manière déterminée, spécifiquement moderne, qu'a l'étant de se dévoiler tout en dissimulant l'être de cet étant, n'est autre que ce que Heidegger appelle métaphysique. Voilà pourquoi, selon la formule récurrente de Heidegger, l'essence de la technique n'est rien de technique. Alors, le sens de cette formule, en première approche, paraît assez simple. À savoir, les descriptions des étangs ou des objets techniques, pris séparément, ne nous donnent pas directement accès à l'essence de la technique, c'est-à-dire à son sens, ou précisément à sa dimension métaphysique. La technique n'est donc rien de technique, car elle est d'ordre métaphysique pour Heidegger. Si l'interprétation techniciste et technomorphe de l'étang, de ce qui est, de ce qui se donne à nous, relève de la métaphysique, c'est parce que l'essence de la technique moderne est identique à l'essence de la métaphysique moderne. En premier lieu, la métaphysique n'est donc pas un corps de doctrine, elle l'est aussi, bien sûr, mais la métaphysique constitue la manière techniciste d'interpréter et de percevoir l'étang, ce qui est et ce qui se donne à nous. Et ce mode techniciste d'interpréter l'étang trouve son origine, d'après Heidegger, chez Platon, pour culminer dans une métaphysique de la volonté de puissance chez Nietzsche, qui pratique un platonisme inversé. Et le danger que comporte la technique moderne comme essence de la métaphysique, c'est, d'après Heidegger, de s'aveugler à l'être. De s'aveugler à l'être à force de se fixer sur l'étang disponible et exploitable, manipulable et calculable. Ce danger d'être abandonné par l'être, comme dit aussi Heidegger, et de surcroît de s'aveugler sur cet abandon, c'est ce que Heidegger nomme le danger de l'oubli de l'être. Selon une formule connue de Heidegger, l'oubli de l'être. Nous avons oublié l'être. L'oubli de l'être caractérise, selon Heidegger, l'époque de la technique comme nihilisme qui dissimule cet oubli même. Et Heidegger, dès les années 1930, situe cette époque nihiliste de la technique sous le signe de la mort de Dieu, qui est un motif nietzschéen. Mort de Dieu corrélé à la fuite des dieux anciens, qui est un motif hölderlinien. C'est de cette dimension que je qualifie de façon très vague pour l'instant de théologique que notre phrase plus tardive, seul un Dieu peut encore nous sauver, est la trace ou l'indice. Seul un Dieu peut encore nous sauver, sous-entendu, seul un Dieu peut nous sauver du danger que présente l'époque nihiliste de la technique, danger d'une dissimulation de l'oubli de l'être. Alors cette dimension théologique se trouve élaborée notamment dans l'ouvrage posthume, à première vue très hermétique et ésotérique, au sens où il se destine à un petit cercle restreint de disciples, ouvrage qui porte le titre de « Beiträge zur Philosophie, vom Ereignis, contribution à la philosophie de l'événement appropriant », un manuscrit qui a été rédigé par Heidegger entre 1936 et 1938. Et qui n'a été publié qu'en 1989, et dont l'une des sections, la section 7, porte le titre mystérieux « Le dernier Dieu ». Je sollicite ce document uniquement pour mettre en évidence le lien entre la critique de l'époque de la technique comme achèvement nihiliste de la métaphysique et la théologie de Heidegger. Je resterai un peu allusif, nécessairement, mais il faut au moins esquisser à grands traits la position de Heidegger telle qu'elle œuvre en sous-main ou à l'arrière-plan de sa critique de l'époque de la technique comme achèvement nihiliste de la métaphysique. Et nous verrons que ce détour par les années 1930 n'en est pas vraiment un, puisqu'il ménage l'accès à la compréhension de la sentence, enfin du moins je l'espère, de 1966, « Seul un Dieu peut encore nous sauver ». Alors, d'après le paragraphe 56 des contributions à la philosophie, l'époque du nihilisme technique se caractérise par ceci, qu'elle suscite et prolonge, mais surtout refoule, la mort de Dieu. La mort de Dieu annoncée par Nietzsche. Mort de Dieu corrélée à ce que Heidegger appelle avec Hölderlin la fuite des dieux anciens. La portée de cette annonce de la mort de Dieu ne s'éclaire pleinement qu'à la lumière de cette exclamation qu'on trouve au paragraphe 19 de l'Antichrist de Nietzsche. Je cite « Bientôt deux millénaires et toujours pas un seul nouveau Dieu. » Et dans un fragment contemporain de l'Antichrist, intégré dans la série de réflexions de Nietzsche sur l'histoire du concept de Dieu, Nietzsche esquisse la conséquence qu'il croit pouvoir tirer de cette double perspective, donc Dieu est mort, pas un seul nouveau Dieu depuis des millénaires, je cite, « Et combien de dieux nouveaux sont encore possibles ?» Point d'exclamation. Car l'annonce de la mort de Dieu est aussi la promesse, pour Nietzsche, d'une aube nouvelle. Selon le paragraphe 343 du Gai Savoir, je cite, « À l'annonce que l'ancien dieu der alte Gott est mort, nous autres philosophes et esprits libres, nous nous sentons comme illuminés par les lueurs d'une aube nouvelle. » Fin de citation. Alors, pour préparer cette aube nouvelle sous l'horizon crépusculaire de la mort de Dieu et de la fuite des dieux anciens, la plainte nietzschéenne, pas un seul dieu nouveau, associée à une quasi-injonction, combien de dieux nouveaux sont encore possibles, semble, pour ainsi dire, inciter, voire exhorter Heidegger, très, peut-être trop nietzschéen sur ce point, à un geste de redivinisation, selon un programme qu'on pourrait appeler théopoétique, ou s'agissant de Dieu au pluriel, d'une théoi-poétique, voire d'une théio-poétique, ou poétique du divin, d'une création ou invention des dieux. Alors Dieu, les dieux, le divin, le discours heideggerien sur le Dieu, les dieux, est difficile à décrypter, à déchiffrer. Et on ne sait plus à quel dieu se vouer, on ne sait plus de quel dieu il est question. Dans un cours sur Parménide, donné en 1942-43, Heidegger note, je cite, « Toteion, c'est-à-dire les dieux ». Plus généralement, le néologisme de théologie, qu'on peut trouver par exemple sous la plume de Rémi Brague, je crois que c'est dans la loi de Dieu, me paraît plus approprié pour désigner le discours heideggerien sur les dieux, le dieu, le préfixe théo indiquant qu'il est question du divin, toteion, das göttliche, das gotthafte, lequel comprend aussi bien le dieu que les dieux, que Heidegger entend opposer, au dieu monothéiste, au dieu biblique du monothéisme judéo-chrétien. Par où, là aussi, Heidegger se montre très nietzschéen, puisque la possibilité d'une force théopoétique capable de créer, d'inventer le ou les dieux nouveaux coïncide avec ce que Nietzsche, au paragraphe 143 du Gai Savoir, appelle polythéisme. Je cite l'art merveilleux, je cite Nietzsche, l'art merveilleux est la force de créer des dieux, le polythéisme. Fin de citation. Lorsque Heidegger parle des dieux, au pluriel, tout porte à croire qu'il le fait selon ce polythéisme, alors nécessairement corrélé à un anti-monothéisme, dans le sillage du Zarathoustra de Nietzsche, lui encore. Je cite « Voilà justement la divinité ou la déité, le fait qu'il y ait des dieux, pardon, mais pas de dieu unique. » Point d'exclamation. Dans ces années 1930, Heidegger constate ou semble regretter, à l'époque nihiliste de la mort de Dieu, une interruption de la force théopoétique ou théogonique, Gottschaffende Kraft, qui est un terme de Nietzsche. Et pourtant, Heidegger suggère que l'impuissance ou l'incapacité théopoétique signale un besoin de Dieu, un besoin des dieux, un besoin qui inciterait à une revigoration, comme il dit, qui s'articule alors comme un dépassement du nihilisme. Ainsi que l'indique le paragraphe 72 des contributions à la philosophie, je cite, « Dans l'expérience fondamentale selon laquelle l'homme, comme fondateur du Dasein, est requis par la divinité de l'autre Dieu, s'annonce la préparation du dépassement du nihilisme. » Fin de citation. Ce qui semble alors motiver Heidegger, c'est de pouvoir contribuer à créer la possibilité d'un espace-temps, comme il dit, où l'homme et le peuple, j'y reviendrai, puissent être requis et interpellés par cet autre Dieu ou ces autres dieux. Selon la possibilité de cet espace-temps nouveau, les dieux seraient soustraits à l'empire technique de l'étang et à la machination ou à la faisabilité, Machenschaft, comme dit Heidegger, et ce qu'il appellera donc plus tard Gestell, ils y seraient soustraits car ils seraient alors reliés, post-métaphysiquement en quelque sorte, à l'être. Donc pour Heidegger, c'est en raison de l'histoire de la métaphysique techniciste qu'il n'y a pas d'apparition de Dieu nouveau depuis 2 millénaires. Alors ce diagnostic du nihilisme comme époque de la technique moderne, époque désenchantée, dédivinisée et amnésique de l'être, constitue la présupposition implicite mais opératoire pour la volonté heideggerienne de préparer quelque chose comme un retour des dieux. Un retour des dieux. Et Heidegger envisage cette préparation d'un retour des dieux comme la préparation conjointe d'un dépassement du nihilisme. C'est que Heidegger surinvestit, en quelque sorte, de son espoir, la perspective qualifiée de tragique, du deuil des dieux enfuis et du deuil de la mort de Dieu. Mais le défaut ou l'absence des dieux se donne alors comme la promesse espérée de leur retour. Le ne plus des dieux, ils ne sont plus, le ne plus des dieux anciens enfuis anticipe en quelque sorte le pas encore des dieux nouveaux à venir. Et c'est aussi en raison de cette situation intermédiaire, cette situation d'interrègne, que le divin s'énonce chez Heidegger tantôt au singulier, tantôt au pluriel, car avant leur retour espéré et la nouvelle faculté théopoétique pour les nommer, les dieux n'ont plus ou pas encore de nom, ou ce qui revient au même, leur nom est variable, comme en atteste l'usage fluctuant de Heidegger dans ses textes de cette époque, le divin, les dieux, le dieu, Dieu, le dernier dieu, etc., ou un dieu, comme dans notre phrase de 1966, « Seul un dieu peut encore nous sauver ». Heidegger considère, ou espère plutôt, que la traversée des ténèbres de cette nuit des dieux, de cette Götternacht, de cette absence de dieu et des dieux, pourrait conduire à une nouvelle aurore, raison pour laquelle Heidegger entend s'installer philosophiquement, méditativement, dans l'espace endeuillé où leur retour deviendrait possible. Dans un cours de 1934-35 sur Hölderlin, Heidegger dit ainsi qu'il faut, je cite, alors je ne l'ai pas mis sur le document, je cite, « Il faut entrer et se tenir purement dans l'espace d'une possible nouvelle rencontre des dieux. » Fin de citation. Et nous retrouvons cette installation, cette disposition méditative dans les réponses sibyllines données par Heidegger au Spiegel en 1966, que vous pouvez voir dans le document, lorsque Heidegger répond ou dit, je cite, « Il nous reste pour seule possibilité de préparer dans la pensée et la poésie une disponibilité pour l'apparition du Dieu ou pour l'absence du Dieu dans notre déclin. » Fin de citation. Alors, ce que l'on pourrait appeler le programme théopoétique de préparation du retour des dieux, après la mort de Dieu, ne saurait en vérité s'accomplir pour Heidegger dans le cadre d'une religion, disons, traditionnelle, judéo-chrétienne, commandé par un discours métaphysique. Car ce discours neutraliserait la possibilité de ce retour en réduisant la divinité à un étant suprême et à une cause suprême selon une structure que Heidegger appelle ontothéologique. Toujours est-il que la critique de toute religion déterminée par le paradigme ontothéologique de l'ancienne métaphysique, réduisant l'être à un étant, voire à un objet, fût-il considéré comme suprême, donne ainsi à lire en creux la possibilité souhaitée, espérée et conceptualisée de ce que Heidegger appelle Rückbindung, qu'on pourrait transposer par religion. Religion qui serait déterminée par une autre approche de l'être et qui ne rabattrait pas l'être sur les étangs. Alors, on trouve plusieurs injonctions dans les textes de cette période qui vont dans ce sens, plusieurs invocations d'un rattachement du peuple au Dieu nouveau, Dieu encore à venir. Ainsi, par exemple, dans le cours sur Hölderlin de 1934-35 encore, où Heidegger proclame que l'apparition du Dieu dans l'être du peuple doit devenir un événement fondamental. Alors, de ce peuple qui reste à rattacher, à relier, le poème de Hölderlin annonce les dieux. Les dieux dont Heidegger entend philosophiquement élaborer le lieu d'arrivée possible. Alors, ce sont essentiellement les hymnes tardifs de Hölderlin, mais aussi ses textes théoriques sur la tragédie que Heidegger lit, interprète, voire surinterprète, comme un texte sacré et prophétique, par où Heidegger s'inscrit aussi, mais pas seulement, dans la tradition d'une lecture sacralisante, pourrait-on dire, de Hölderlin, pratiquée dans les années 1910 et 1920 en Allemagne, au sein du Georgekreis, du cercle de Georges, sorte de cercle néo-malarméen, alors très influent. L'un des membres les plus connus de ce cercle était Ernst Kantorowicz. Cette interprétation ou surinterprétation de Hölderlin est conçue comme un dialogue que Heidegger met en œuvre ou en scène sur des centaines de pages dans les années 1930 et au-delà, en réactualisant et en inversant en quelque sorte le vieux différent entre poésie et philosophie qu'évoquait Platon dans le livre 10 de la République. La philosophie de Heidegger, comme Logos revu et corrigé, ambitionne en effet de revenir à son origine, qu'est le poème, comme mythos, comme mythe. Et je le souligne en passant, sans m'y arrêter, ce dialogue mythologique se concentre dès lors dans cette tentative de lire le poème de Hölderlin, tentative désormais identifiée dès le milieu des années 1930 et jusqu'en 1976, comme la tâche exclusive de la philosophie, de sa philosophie, de la philosophie de Heidegger. Voilà aussi pourquoi Heidegger dira encore dans l'entretien que sa pensée se tient dans un rapport incontournable avec la poésie de Hölderlin. Alors, à vrai dire, Heidegger ne propose pas exactement une nouvelle religion. Il prétend plutôt donner une détermination nouvelle de l'essence de la religion, susceptible de dégager les conditions de sa possibilité. Sorte prolégomène à toute religion poétique future que Heidegger élabore avec, c'est-à-dire à partir de Hölderlin, de son Hölderlin, dont le poème, le mythos, si vous voulez, configure le cœur du peuple. Alors ici jouent aussi plusieurs motifs que je n'approfondis pas pour ne pas compliquer encore mon propos. Par exemple, le motif de l'Allemagne des poètes et des penseurs, conçu par analogie avec la Grèce des poètes et des penseurs. Le motif de l'Allemagne secrète, dont le secret est formé par la poésie de Hölderlin. Ou encore le plus ancien programme systématique de l'idéalisme allemand, une esquisse rédigée par Hölderlin avec le concours de ses camarades Hegel et Schelling, esquisse programmatique datée de 1797 et qui rêvait d'une nouvelle religion esthétique traduisant la philosophie pour le peuple. Hans-Georg Gadamer, élève de Heidegger, a dit, comme en passant, dans un entretien de 1988, que son maître caressait lui aussi, dans les années 1930, le rêve d'une religion du peuple. Le rêve d'une religion du peuple. C'est une phrase extrêmement intéressante prononcée par Gadamer, car elle ouvre beaucoup de perspectives sur un projet difficile à déceler chez Heidegger à cette époque, projet plus ou moins secret. Alors, je voudrais me demander s'il est possible de discerner dans le tissu de ce rêve d'une religion du peuple le visage de ce Dieu qui seul peut encore nous sauver. Alors, l'un des suspects, ou plutôt l'un des candidats pour figurer ce Dieu, c'est, me semble-t-il, l'énigmatique dernier Dieu, dont Heidegger précisait dès l'exergue, c'est dans l'exergue de la section 7 des contributions à la philosophie, section 7 intitulée précisément Le dernier Dieu, Der letzte Gott, où il précisait dernier Dieu qui s'oppose à tous les autres, surtout aux dieux chrétiens. Donc c'est l'exergue de la section 7, le tout autre, der ganz andere, contre ceux qui furent, die gewesenen, particulièrement contre gegen, le chrétien. Alors sans, évidemment, entrer dans le détail des descriptions, souvent, il faut bien le dire, obscures et elliptiques, que donne Heidegger de ce dernier Dieu dans cette section 7 et ailleurs, dans d'autres textes, je voudrais tout de même essayer d'en indiquer de façon succincte quelques traits caractéristiques, quelques indices pour constituer une sorte de portrait robot. D'abord, je relèverai son caractère antagoniste, le caractère antagoniste de ce dernier Dieu. Alors évidemment, il serait précipité d'interpréter le contre, le gegen, l'anti, le versus de ce dernier Dieu, en le référant sans médiation à l'anti-christianisme nietzschéen, en convoquant la formule célèbre d'Ezio Homo, Dionysos contre le crucifié. Dionysos ne serait alors qu'un autre nom de l'Antichrist, comme le suggère Nietzsche dans la nouvelle préface qu'il donne à La naissance de la tragédie. Cet anti-christianisme semble impliquer alors une certaine forme de paganisme. Cette catégorie de paganisme étant évidemment rejetée par Heidegger lui-même, puisque une position païenne, c'est ce qu'il dirait, je pense, une position païenne ou même néo-païenne ne cesse de se définir par rapport au christianisme qu'elle critique et conteste. D'ailleurs, la situation inextricable de l'anti-christianisme de Nietzsche, dans son Antichrist et ailleurs, le montre avec éclat. Le contrat Christianos de Nietzsche n'est qu'une sorte de répétition du contrat gentiles des pères de l'Église sous un signe inversé. Mais les choses ne sont jamais simples avec Heidegger, puisqu'il laisse entendre dans une note du cours de 1936, dans un cours donné en 1936, qu'il y aurait d'un côté un paganisme anti-chrétien, de l'autre un paganisme a-chrétien ou non-chrétien. Peut-être une sorte de sur-paganisme, je ne sais pas. Et je rappelle, enfin, ou j'indique que cette thématique a fait l'objet de plusieurs critiques tout à fait intéressantes adressées à Heidegger par encore Gadamer, par Hans Jonas, par Jürgen Habermas ou aussi Emmanuel Levinas. Alors cette question du paganisme chez Heidegger est difficile à trancher ici. Il faudrait aussi tenir compte effectivement de ce que Heidegger a appelé lui-même son explication silencieuse avec le christianisme. Car Heidegger vient du christianisme. Son explication avec son propre christianisme initial, une explication tortueuse, torturée, parfois violente, qu'il n'a cessé de conduire tout au long de son trajet, cherchant des alternatives n'en trouvant pas toujours ou croyant en avoir trouvé parfois. Donc la question de savoir si le dernier Dieu de Heidegger est ou n'est pas le Dionysos dont Nietzsche souhaitait le retour ne peut se formuler aussi simplement. Car il faut aussi tenir compte du rapport qui lie le dernier Dieu au Dieu pluriel, identifié dans l'exergue à ceux qui ont été, auquel ressortit aussi, tout mal, le Dieu chrétien. Si le polythéisme anti-monothéiste de Nietzsche influe sans aucun doute sur la description de la figure du dernier Dieu, contre le Dieu chrétien, il ne faut pas oublier, là aussi, le rôle de Hölderlin, qui, dans l'Unique, le poème L'Unique, dit qu'il est encore, lui, Hölderlin, enfin, à la recherche d'un dernier Dieu manquant. Chez Hölderlin, ce dernier est le Christ, frère d'Héraclès et de Dionysos. Or, si le Christ est frère secret d'Héraclès et de Dionysos, s'il est comme eux fils de celui qui est toute vie, comme dit Hölderlin dans la Fête de la paix, il n'est pas le fils du Dieu judéo-chrétien ontothéologique, comme dirait Heidegger. Et rien n'empêche alors de voir dans ce Christ hölderlinien l'un des noms du dernier Dieu des contributions à la philosophie. Même si le Christ, invité à la Fête de la paix, et qui en tolère d'autres à côté de lui, n'est plus le Christ du dogme et de la révélation. Si on suit Hölderlin dans une lettre qu'il a adressée à sa mère en 1798, donc la réinscription du christianisme, ou il faudrait dire du judéo-christianisme, dans le polythéisme antique, ou supposé tel, le Christ étant le dernier dieu antique, impliquerait alors la fin du judéo-christianisme comme monothéisme. Alors, deuxième trait caractéristique de ce dernier dieu, c'est son caractère d'étrangeté. Le dernier dieu est appelé le tout autre, der ganz andere. Et comme tel, il est étrange, il est dépaysant, il est inconnu également. Cette étrangeté peut faire songer au dieu étranger de Marcion, et plus qu'au dieu inconnu évoqué dans le Nouveau Testament, il peut aussi faire penser au dieu inconnu de la plainte d'Ariane de Nietzsche, encore lui, « Toi, dieu inconnu ». C'est-à-dire, il peut faire penser à Dionysos, dieu étrange et étranger. Troisième caractère de ce dernier dieu, le caractère, son caractère révolutionnaire. Alors, c'est notamment en interprétant les notions de révolution, revirement, retournement, catastrophe et d'autres encore, dans le corpus dit « tragique » de Hölderlin, donc de la mort d'Empédocle aux remarques sur Antigone et Œdipe, en passant par les hymnes tardifs, que Heidegger semble extraire la figure du dernier dieu comme un dieu de la révolution. Ce dieu révolutionnaire est un dieu de la est présenté comme un dieu de la transition et de la métamorphose, car il préside au revirement ou au tournant d'un état ancien, l'époque du nihilisme, vers un état nouveau, l'époque nouvelle. C'est par ce tournant, cette volte, que la possibilité d'un espace-temps, d'un autre espace-temps, possibilité inaccessible à l'ancienne métaphysique, pourrait devenir effective suite à l'effondrement ou à la dissolution tragique de l'espace-temps de l'ancien monde. Autre trait caractéristique de ce dernier dieu, eh bien, son caractère ultime. Son caractère ultime, c'est que pour Heidegger, me semble-t-il, le dernier dieu ne peut apparaître qu'à la fin de l'histoire de la métaphysique de l'époque ancienne, et ce, par le déclin, le Untergang, le déclin, interprété comme l'éclosion de l'époque nouvelle. Ainsi, le dernier dieu n'est pas la fin, mais il arrive avec la fin pour initier ce que Heidegger appelle fréquemment un autre commencement. Autre trait caractéristique de ce dernier dieu, sa temporalité instantanée et irruptive, brusque, soudaine. Le dernier dieu est un dieu de l'instant, du kairos, en quelque sorte, car situé au moment du déclin de l'époque ancienne et au seuil d'une époque nouvelle, c'est un dieu fugace, c'est ainsi qu'il est décrit par Heidegger, c'est un dieu fugace qui passe en un instant, en un clin d'œil. Ce n'est pas donc un dieu de la présence constante, mais c'est un dieu du passage et du devenir. Et pour penser le temps du dernier dieu, Heidegger se tourne vers Hölderlin, pour lequel les dieux ne sont rien d'autre que du temps, et pour lequel, Hölderlin, le céleste est fugace. Il interprète, surinterprète ces vers de Hölderlin pour en extraire le mode temporel de son dernier dieu. Ensuite, on pourrait repérer comme autre caractéristique le mode paradoxal de l'apparition du dernier dieu. Le passage du dernier dieu ainsi pensé détermine le mode paradoxal de sa théophanie. Le dernier dieu apparaît sous un aspect double et contraire, puisqu'il apparaît en disparaissant, n'étant proche que lorsqu'il est distant, comme le dieu dans Patmos. Comme le dieu dans Patmos, le dernier dieu dans son passage est proche et difficile à saisir. Difficile à saisir par l'explication causale d'une approche objectivante, métaphysique et ontothéologique. Selon sa théophanie paradoxale, le dernier dieu, comme dieu lointain qui s'absente ou part, est, EST, dans le même mouvement, le dieu proche qui se présente ou vient. On pourrait alors considérer, ce sont là des conjectures que je formule, on pourrait alors considérer que le dernier dieu, absolument proche, extrêmement lointain, épouse les traits du dieu qui vient, der kommende Gott, le dieu qui vient, c'est-à-dire encore de Dionysos, tel qu'il est énoncé, non pas par Nietzsche cette fois, mais par Hölderlin, dans Pain et vin, vers 54, « De là-bas est venu et revient présager le dieu à venir. » Alors, on peut remarquer à cet égard, que la réciprocité entre un dieu qui apparaît et l'homme, l'être humain, qui voit cette apparition, constitue le schème conventionnel d'un rapport attesté dans les récits d'Épiphanie, tant dans la prose que dans la poésie antique. Donc ce schème est maintenu chez Heidegger, selon le modèle des Bacchantes d'Euripide. Il est maintenu, mais il faut peut-être quand même souligner ce qui singularise, car étant moderne ou non grec, l'apparaître de ce dieu qui vient, qui est le dernier dieu de Heidegger, à savoir le lien insécable entre le départ et la venue, la présence et l'absence dans leur soudaineté, c'est-à-dire donc la double aspectivité du dieu. Alors, après avoir brossé à traits grossiers ce portrait robot du dernier dieu, qui est, je pense, l'un des fruits les plus extravagants du dialogue entre Heidegger et Hölderlin et Nietzsche, peut-on dire qu'il correspond au dieu évoqué dans la phrase « Seul un dieu peut encore nous sauver » ? Alors, une certaine prudence est de mise. Je dirais, il semblerait que le dernier dieu porte le masque de Dionysos. Mais est-il pour autant Dionysos ? C'est une hypothèse plausible, à mon avis, et il faudrait avancer des arguments contraires pour l'invalider. C'est donc peut-être ce dernier dieu que Heidegger attendra encore en 1966, lorsqu'il dira que seul un dieu peut encore nous sauver. Nous sauver de l'époque de la technique planétarisée, c'est-à-dire nous libérer du danger de l'oubli de l'être qui nous fait errer dans le circuit compulsionnel des objets techniques. Alors pour terminer, je voudrais souligner une curieuse réversibilité ou paradoxalité de la notion heideggerienne de salut que l'on trouve aussi chez d'autres auteurs et dans d'autres traditions. À savoir que ce qui nous met en danger, pour Heidegger, la technique, pourrait aussi être ce qui nous sauve. Selon Heidegger, l'être qui se dissimule dans le dispositif technique, dans le Gestell, doit transiter par l'homme pour se manifester. Le Gestell, le dispositif technique, est bicéphale. C'est une tête de Janus. Il asservit et aliène l'homme. Il en fait, comme dit Heidegger, le fonctionnaire de la technique. Mais il présente aussi et en même temps l'occasion pour lui d'entrer dans un nouveau rapport à l'être, où l'être ne serait plus oublié, mais pris en garde, au sens où il serait remémoré dans sa vérité. Comme le note Heidegger dans sa conférence qui s'appelle Le Tournant, début des années 50, je cite, « Dans l'essence du danger se déploie et habite une faveur, ou une grâce, une faveur, à savoir la faveur du tournant, qui est de l'oubli de l'être vers la vérité de l'être. » Fin de citation. Le problème, semble-t-il, c'est que pour que cette possibilité d'être sauvé devienne effective ou réelle, l'époque technico-métaphysique doit changer, elle doit tourner. Et selon Heidegger, l'initiative de ce tournant ne relève pas du pouvoir humain. Seul un dieu, dont l'un des noms ou des masques est donc peut-être le dernier dieu, pourrait provoquer ce tournant, cette révolution. Mais le surgissement de ce dieu étrange et inconnu est absolument imprévisible. Puisqu'il est inutile de vouloir savoir quand et comment se produira sa théophanie, il ne reste que la possibilité d'attendre ce dieu en pensant l'être, en devenant le gardien de l'être, comme dit Heidegger, par la pensée, et ainsi s'ouvrir à l'éventuelle venue du dieu. C'est la réponse elliptique et un peu dégrisante donnée par Heidegger à son interlocuteur du Spiegel. Je cite, « Nous ne pouvons pas le faire venir, ce Dieu, par la pensée. Nous sommes capables au mieux d'éveiller une disponibilité pour l'attendre. » Fin de citation. Je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter. Merci.
Eh bien, merci pour cet exposé qui était, d'une part, disons, de la philologie dans l'interprétation de Heidegger, et également une manière de se poser la question, enfin, qu'est-ce que ces pensées que vous avez qualifiées à la fin par l'adjectif peu flatteur de extravagant. Qu'est-ce que cela peut nous apporter ? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de salvateur pour nous aussi dans ces pensées ? Rien d'étonnant à ce que des questions soient surgies, et d'abord celle de Xavier Darcos.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par remercier Monsieur Sommer de son exposé et m'excuser par avance d'essayer d'entrer en échange avec lui, parce que tout ceci est très difficile pour moi. Mais j'ai une question, cependant. Enfin, ce que j'avais compris, moi, à travers la réflexion sur la poésie, notamment, que je connais mieux que les textes que vous avez convoqués, notamment « Les chemins qui ne mènent nulle part », les échanges avec René Char, les divers commentaires sur le Rhin et la Germanie d'Hölderlin, ce que je comprenais de la pensée heideggerienne, c'est qu'elle constater que le poème est langage, que ce langage n'appartient qu'à l'homme, et que l'homme a fait du langage un outil technique. Et qu'en conséquence, il faut revenir au poème pour trouver l'hymne de la vérité, enfin, l'être parlant vraiment. C'est ce que j'avais compris. J'espère que je ne me trompe pas.
C'était ça.
Bon. Et du coup, je me posais la question de, à propos de, du totéion, c'est-à-dire de, du Dieu et des dieux, si la question n'est pas plutôt celle du polythéisme et du monothéisme qui est cachée dans toute cette question, non pas que Heidegger voudrait choisir entre le christianisme et le paganisme, mais parce qu'il est conséquent. Si l'on pense que la vérité de l'être se trouve dans le poème, dans le rapport qu'il a le plus fort et le plus immédiat avec ce qui vit et ce qui est, il est conséquent de considérer que le poème est la voix permanente de toutes les voix divines qui s'expriment dans le réel, dans la nature, et que c'est une sorte de théophanie permanente que le poème. Et que ce poème suppose donc une sorte de polythéisme ou de Deus sive natura, quoi. Voilà. Alors, est-ce que je me trompe lorsque je dis ça, ou est-ce que vous pouvez m'éclairer sur les questions que je me pose?
Je suis très heureux que vous ayez fait cette remarque, parce que je n'ai pas évoqué cet aspect, mais il est important de voir, je crois, que ce retour à la poésie, au poème de Hölderlin, implique une sorte de rituel, qui est la lecture du poème, effectivement. Donc, c'est dans la lecture du poème, la proclamation du poème, poème qui recèle la vérité de l'être, et aussi les dieux à venir, et bien dans cette proclamation, ces dieux mêmes sont présents, simplement dans l'acte de profération. Donc, c'est voilà pourquoi j'ai évoqué le terme de religion poétique. On peut trouver ça, évidemment, dans d'autres traditions, bien sûr, mais voilà, le rituel religieux, entre guillemets, parce qu'on a l'impression d'être quand même assez loin de religion constituée, mais le noyau se trouve dans cette proclamation du poème de Hölderlin, par laquelle les dieux sont présents et s'enfuit de nouveau quand la proclamation est terminée. Donc voilà, c'est ce que on pourrait développer encore, bien sûr, mais c'est un peu le noyau, je pense, de l'une des conceptions de Heidegger et de son rapport au poème de Hölderlin. C'est une parousia, une parousie, le poème de Hölderlin. Merci en tout cas.
Merci. Jean Béchler avait une question aussi.
Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous poser une question naïve d'ignorant. Mais pour pouvoir vous la poser, il faut que je commence par vous faire une confidence. J'entretiens pour tous ces personnages une mésestime radicale depuis plus de 50 ans. Je reconnais que ce sont des génies transcendants, mais en même temps des esprits faux, et foncièrement faux dans le cœur de ce qui n'est pas une pensée, parce que je crois que l'origine de la perversion est l'adhésion à une idéologie. Ce sont des idéologues, et des idéologues réactionnaires, anti-modernes, qui ne supportent pas la mondialisation, la rationalisation, l'individuation, etc. Alors, si on accepte l'interprétation, c'est une question que je vous pose, on comprend un certain nombre de traits qui sont apparents dans votre exposé. Premièrement, rien n'est défini. À aucun moment, je n'ai pu apprendre ce qu'il faut entendre par Dieu, au singulier, au pluriel, majuscule, minuscule, divin, déité, tout ce que vous voudrez. Autrement dit, c'est du bavardage, purement et simplement. Or, il y a des bibliothèques entières remplies par les sciences religieuses sur ces questions qui vous en apprennent beaucoup plus que ces personnages. D'autre part, c'est très Zeitbedingt et ethnocentré. La notion absurde, parce que totalement dépourvue de sens, de mort de Dieu, n'a de sens que dans une civilisation qui est centrée sur l'idée d'un Dieu transcendant et créateur. ça n'a aucun sens dans la civilisation chinoise ou dans la civilisation indienne. Donc tout ça est nul et on en a venu. Alors, tout de même, je m'arrête un peu à mort de Dieu. Ça m'agace alors, depuis plus de 50 ans, au moins 60 ans, pour la raison suivante. Si on, veut, on entend par là la mort de Dieu, c'est idiot, ça ne veut rien dire, il ne peut pas mourir. Bon, c'est idiot. On entend évidemment par là le fait que les sanctuaires sont désertés. Eh bien, l'interprétation de bon sens, c'est que enfin, après des millénaires, la religion devient religieuse et cesse d'être un rite social. Quand on a été élevé comme moi dans une paroisse traditionnelle, j'ai mieux vous dire qu'on sait ce que c'est qu'un rite social d'inspiration religieuse. C'est insupportable. Et je vous signale que l'abbé, je pense qu'il était encore abbé en 1969, mais j'en suis pas sûr, Ratzinger, avait publié un article qui va exactement dans ce sens-là, après le Concile de Vatican, où il disait, en substance, tout ça est une bonne chose. Enfin, la religion va devenir religieuse. Et bon, alors, il va y avoir une période désertique et qui a atteint et gagné d'abord l'Europe et puis gagnera d'autres pays, mais c'est très bien. Et je pensais exactement la même chose au même moment. Donc, ma question est naïve. Est-ce que vraiment, ce sont des génies faussés par l'idéologie ?
Merci. Qu'entendez-vous par idéologie ? Vous parlez de Heidegger en particulier ?
Tous, depuis Schopenhauer.
Depuis Schopenhauer ?
Depuis Schopenhauer, on peut sûrement romancer plus haut, mais pas, pas Goethe. Goethe a échappé à ça, mais... Bon, Nietzsche est strictement illisible, ça veut rigoureusement rien dire. Enfin, Heidegger, il faut s'accrocher pour y trouver un sens. Non, là, j'exagère. Je vous fais marcher. Je reconnais que ce sont des quasi-génies, mais de vrais génies touchent à la justesse. Ils ne peuvent pas être des esprits faux, si vous voulez. Alors, pas toute la justesse, mais en tout cas, une partie la touche. D'une manière ou d'une autre.
Je ne sais pas s'il faut bien moment. Ah pardon. Ah oui, c'est. Je ne sais pas s'il faut considérer toutes ces grandes figures, vous considérer comme grandes, comme des génies déjà, parce que là, on attend un peu trop ensuite des penseurs. Vous voyez, ce sont aussi des êtres humains, mais surtout des penseurs. C'est ça qui nous intéresse. Mais alors, pour juste situer. L'exposé que je viens de faire était très schématique, vous savez. Donc, il faudrait discuter plus, évidemment, de la figure du dieu, des dieux, de façon très argumentée et informée. Là, c'était juste pour donner quelques indices, quelques pistes, vous voyez. Mais vous avez bien remarqué que dans ce que j'ai pu citer de Heidegger, donc des années 30, mais aussi 69, il y a bien sûr des motifs... de l'ère du temps aussi, voilà, idéologique si vous voulez. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Heidegger arrive à... Il en dépend un peu, comme tout le monde, mais il arrive à aller au-delà quand même, parfois, surtout en proposant des relectures de Nietzsche et de Hölderlin. Alors, est-ce qu'elles sont inintelligibles ? Je ne pense pas. Il faut... Mais ça demande un peu d'effort, c'est vrai, mais... Vous voyez, je crois qu'on peut tout à fait lire quelqu'un comme Heidegger sans le réduire à une idéologie, même s'il ne faut pas être aveugle, bien sûr, sur la détermination idéologique éventuelle de sa pensée. D'ailleurs, ça m'est arrivé de réfléchir sur ça.
Bon, je vous accorde que j'ai essayé de vous provoquer. Enfin, bon. Donc, j'ai poussé le bouchon un peu loin. En tout cas, merci.
Bien. Jean-Claude Trichet.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai trois questions. La première, très naïve aussi, comme celle de Jean Béchler, si je puis dire. Comment se fait-il que les philosophes français aient été à ce point influencés par Heidegger ? Quand on regarde, évidemment, le plus... le plus notoire étant probablement Jean-Paul Sartre, qui est vraiment un disciple d'Heidegger à un point assez extraordinaire, les existentialistes chrétiens français et beaucoup d'autres aussi. Donc là, je ne veux pas parler de génie, mais de puissance de réflexion, mais peut-être aussi du fait que dans la tradition française, on découvrait quelque chose à quoi on n'avait pas eu accès auparavant. Mais c'est la question. Deuxième question, ne pas voir un retour au paganisme dans cette séquence, disons, de philosophes germaniques, est quand même assez difficile, clairement. Il y a vraiment, me semble-t-il, une critique radicale du monothéisme, une critique, un éloge d'un certain polythéisme, un retour. J'y voyais moi-même peut-être comme une seconde réforme incroyablement puissante, cette fois-ci ne balayant pas seulement Rome, mais balayant tout le monothéisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Comment voyez-vous ça? Y a-t-il une résurgence du paganisme germanique, du paganisme du nord de l'Europe? Le rapprochement paraît peut-être justifié. Troisième question, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que les analyses critiques de la technique sont, elles, réellement passionnantes et qu'il y a là quelque chose à sauver, pour reprendre le titre de notre année, si je puis dire? Et puis, dernier point, alors il y a quand même Hitler qui pose un petit problème, parce que Gadamer lui-même, je l'ai redécouvert récemment, a signé la déclaration des professeurs en faveur d'Adolf Hitler. Et chacun sait que, à tort ou à raison, il a bien fallu que Heidegger occupe des positions d'influence et de responsabilité, et qu'il soit même lui-même membre du Parti national-socialiste. Alors, est-ce que vous voyez un rapprochement à faire entre le paganisme, le nazisme et la puissance intellectuelle du peuple allemand à cette époque, dans des circonstances particulières?
Je vous remercie beaucoup pour ces questions extrêmement difficiles. Concernant la réception de Heidegger, étonnante en France, vous l'avez rappelé par Sartre, d'abord, quelques autres, et surtout en 1946 par Jean Beaufray avec la lettre sur l'humanisme, et une influence qui dure encore un peu aujourd'hui, mais qui était énorme, colossale, et qui donne à penser. Pourquoi? Alors, Heidegger, dans l'entretien du Spiegel, et évidemment, c'est là un peu sujet à discussion et à controverse, disait: oui, les Français viennent me voir maintenant parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer, à penser dans leur langue. Alors, ils viennent me voir parce que ce qu'il y a à penser ne peut être pensé qu'en allemand. Bon, on s'est beaucoup moqué de ces propos de Heidegger, à juste titre, je pense. Mais ça peut, voilà, un peu indiquer ce que une certaine réception, pas toute, je pense surtout à Jean Beaufray et à ses élèves, un peu sectaires, il faut bien le dire, et un peu soumise aussi au grand maître, Heidegger, qui proposait une sorte de grand récit après la guerre, qui semblait rompre ou être en rupture avec une tradition plus cartésienne, on va dire. Et d'autres raisons encore ont fait que, très complexes, que Heidegger est devenu un philosophe français, en quelque sorte, malgré lui. Il est traduit, commenté, etc., etc. Voilà. Et si je peux me permettre, il y a un ouvrage passionnant qui se lit comme un polar du regretté Dominique Janicot, Heidegger en France, sur la réception agitée, mouvementée de Heidegger en France. Voilà, c'est chez Albin Michel, je crois, 2001. Alors, question vraiment épineuse, le paganisme, évidemment, c'est ce que j'ai essayé d'effleurer au moins, ou de faire voir un tout petit peu. C'est une vraie question. Alors, je n'ai pas voulu trancher, mais de toute évidence, il y a chez Heidegger, encore qu'il faudrait distinguer les périodes, mais ça commence dans les années 30 et ça reste jusqu'à la fin, il y a une tentative d'aller au-delà de ce qu'il considère comme le monothéisme. Donc là, je serais d'accord, effectivement, c'est le monothéisme occidental, ou on va dire judéo-chrétien, d'aller au-delà de ce monothéisme pour trouver des alternatives. Et en lisant donc Hölderlin et Nietzsche, et là, c'est vrai qu'il est quand même assez proche, je dirais, d'une forme de paganisme ou de surpaganisme, surtout parce que, et je ne l'ai pas évoqué, parce que ça aurait été trop long et compliqué, le rôle de la nature chez Heidegger. Donc, la nature qu'il réinterprète aussi à partir de Nietzsche, de Hölderlin, qui est centrale. La terre, il appelle ça la terre, et qui est une divinité pour Heidegger. Donc là, on a presque voilà, l'ingrédient principal, non, d'une certaine forme de paganisme. Voilà. Sauf, alors, ce qui complique la chose, c'est que, et ça je l'ai mentionné, c'est l'explication silencieuse avec son christianisme. Donc, il voudrait être païen, mais peut-être qu'il n'y arrive pas tout à fait. Parfois, les tentatives sont un peu trop brutales. Voilà, donc je pense que c'est aussi une forme de souffrance personnelle où il essaye toujours de nouvelles choses, mais il veut se détacher, mais il n'arrive pas. D'ailleurs, il a demandé pour son enterrement, en 1976, à Mesquite, d'être enterré d'après les rites catholiques, mais qu'on lise aussi les poèmes de Hölderlin, donc les deux. Mm-hmm. Voilà, ça c'est... Heidegger est voilà, un peu difficile à saisir sur ce point. Mais c'est une question ouverte, débattue, qui demanderait beaucoup de temps. Je relis tout de suite cette question du paganisme à votre question. Alors, excusez-moi, mais sur le chancelier, le nouveau Solon, installé dans les années 30 et au-delà en Allemagne, le lien entre ce nouveau Solon et Heidegger par cette forme de surpaganisme, il est compliqué à déterminer, mais il est réel. Il est réel. Il m'est arrivé de réfléchir à ces problèmes. Et là aussi, moi j'aime bien réfrigérer un peu le corpus de Heidegger en étant un peu historien et philologue, parce que c'est vrai, il y a cet effet d'hypnose qui émane du texte de Heidegger, et donc les interprètes sont souvent hypnotisés et paralysés. Donc je préfère avoir une approche un peu historienne. Donc là aussi, ça dépend des périodes, le rapport au national-socialisme, quand même, pour le nommer. Il a été recteur de l'université de Fribourg. Je pense qu'il avait une sorte de programme platonicien pour réformer l'université allemande et pour considérer que voilà, l'essence de l'État qui est en train d'émerger, ça doit être l'université, son esprit, l'esprit de cet État qui était l'État national socialiste. Heidegger était recteur pendant une année, 1933-1934. Mais la figure du créateur de l'État, c'est une figure à laquelle Heidegger continue de s'intéresser, au moins jusqu'en 1938, en tant que cette figure doit former dans l'esprit de Heidegger une structure ternaire avec le poète Hölderlin, le penseur lui-même Heidegger, et le créateur d'État. Donc une sorte de noblesse avant-gardiste qui doit créer le cœur du peuple et qui doit préparer l'espace-temps nouveau pour l'arrivée des dieux. Vous voyez ? De façon concurrentielle, comme un projet qui voudrait contrer Wagner. L'œuvre d'art total de Wagner. Peut-être, à l'égard, penser, voilà, il faudrait... arrêter d'écouter, ou il faudrait que Hitler arrête d'écouter Wagner et entende Hölderlin, quelque chose comme ça. Donc c'est des choses passionnantes à analyser à distance, Mais il y a là une intrication terrible pour Heidegger et pour nous aussi, parce que, bon, je ne sais pas si c'est le plus grand penseur du XXe siècle, difficile à dire, mais c'est un penseur quand même immense, on peut le dire, ne serait-ce que par l'influence qu'il a eue, vous l'avez rappelé, ça c'est un fait, mais le fait aussi que ce penseur ait été précipité, se soit précipité lui-même dans ce projet qu'il a mis en contact avec le national-socialisme, dont il avait une version très étrange, utopique, eh bien, ça donne à penser, quand même. Et ça met parfois mal à l'aise. Je partage aussi ce malaise. Voilà. Merci, en tout cas.
Merci. Jean-Robert Pitt.
Merci beaucoup. Je voudrais vous poser une question. Comment se fait-il que Nietzsche en vient à faire de Dionysos un antéchrist, alors que pour un certain nombre d'auteurs qui ont travaillé sur le culte de Dionysos et de Bacchus, il est au contraire une sorte de préfigurateur du Christ. Il est né du dieu majeur qui est Zeus et d'une mortelle. Il est le dieu de la mort et de la renaissance. Il est le dieu de l'amour. Il est le dieu de la folie, certes, mais il est le dieu de l'amour. Il s'incarne dans le vin comme le Christ dans l'Eucharistie. Donc il y a mille choses, il y a tout le livre de Jean Maire que vous connaissez peut-être, qui a 70 ans maintenant, mais qui raconte tout ça et ses liens très très forts, comme si Dionysos était une sorte de préfiguration, j'allais presque dire de prophète du Christ. Et donc comment peut-on en faire l'antéchrist ?
Oui, merci beaucoup. Alors là, on serait plutôt aussi dans Hölderlin, qui voit voilà, Dionysos qui préfigure le Christ. Nietzsche, c'est comment dire, dans le contexte que j'ai essayé de déplier un peu, Nietzsche apparaît comme quelqu'un qui souhaite un retour à la tragédie grecque et à Dionysos. Et, bon, je ne suis pas expert de Nietzsche, je le connais un peu, mais il me semble que dans ce contexte que réinvestit Heidegger, Dionysos, eh bien, permet non seulement de contrer ce que Nietzsche appelle le christianisme, mais aussi permet de placer là aussi au cœur de la tragédie qui doit renaître par Wagner, de le placer au centre de la tragédie et donc au centre de l'Allemagne aussi. Donc, Dionysos serait plutôt un contre-dieu polémique utilisé par Nietzsche. Après, on peut voir autrement les choses comme Hölderlin, par exemple. Mais je crois que Dionysos, comme dieu germanique, enfin terrible à dire, mais s'il revient, il ne peut plus porter le nom de Dionysos, puisque Dionysos est un dieu grec. Donc ça c'est plutôt les perspectives nietzschéennes que Heidegger va réinvestir en ajoutant un peu de Hölderlin, et ça devient assez embrouillé, je dois bien le dire. Mais voilà, il faudrait en discuter encore. Mais...
Ce qui est certain, c'est que s'il n'y avait pas eu le culte de Dionysos en Grèce, les Grecs ne seraient pas devenus aussi facilement chrétiens.
On peut voir les choses ainsi, oui, je pense, tout à fait. Mais c'est pas du tout, alors, du tout la position de Heidegger. Et c'est tout à fait critiquable, dans le sens où il essaye de détacher toute interprétation de Dionysos du contexte chrétien. Si vous voulez. Ça, c'est, voilà. Donc il surinterprète Nietzsche sur ce point aussi. Voilà, mais c'est Heidegger.
Donc il se trompe.
Je sais pas s'il se trompe, mais je pense que c'est... Alors, c'est une forme, extravagante, là aussi, de mon point de vue, d'une tentative d'un rêve, voilà, comme disait Galamin, d'une nouvelle religion du peuple au XXe siècle, parmi d'autres. Voilà. Est-ce que c'est une impasse ? Peut-être, sans doute. Est-ce que c'est un chemin qui mène nulle part ? Peut-être, sans doute. Voilà, j'essaye de comprendre, mais sans y adhérer, nécessairement.
Merci. Georges Rissoutou.
Oui, merci beaucoup. Je vais poser une question, évidemment, un peu en marge. Vous me pardonnerez, elle est liée à mes intérêts d'historien du système international, si vous voulez. Bon, il y a eu des, pas seulement des contacts, il y a eu des échanges entre Heidegger et Carl Schmitt. Oui. Alors, personne ne peut mettre en doute que Carl Schmitt était relevant, comme on dit en allemand, pour l'Allemagne de son temps, et je dirais même au-delà, pour l'Europe et pour le monde occidental de son temps, et peut-être même par la suite. Enfin, on, d'accord ou pas, on le lit toujours avec intérêt. Il est évidemment plus accessible, peut-être intellectuellement, que Heidegger. Est-ce que ces contacts qui paraissent avoir été intellectuellement nourris ont bien existé, ou est-ce que c'est une exagération des turiféraires des deux hommes qui chacun ont leurs admirateurs, etc. Est-ce que c'est bien réel? Et d'autre part, quelles conclusions peut-on tirer? Pas forcément, pardonnez-moi, dans le sens de votre exposé, c'est un peu différent, mais malgré tout, ça ouvre la voie vers encore d'autres aspects de Heidegger, peut-être. Voilà la question,
je vous poser. Remercie. C'est... Alors, oui, Schmitt, Carl Schmitt, Martin Heidegger, il y a eu des contacts, il y a eu des échanges de lettres, voilà, mais plutôt celles qu'on a retrouvées de 1933-34, où alors il faut que je m'en souvienne, mais je crois qu'il parle de Pindare, de la loi roi, nomos basileus, mais il parle aussi, et ça c'est Heidegger, il dit, il s'adresse à Schmitt, voilà, quelque chose comme rejoignez-nous, il faut agir maintenant. Donc ça c'est 1933, un moment très particulier évidemment, très particulier. Donc il y a eu une alliance, on va dire, politique sans doute en 1933, peut-être encore en 1934, mais ensuite le rapport, on va dire, théorique entre Heidegger et Schmitt, parce qu'il existe. Parce qu'il existe, on peut le lire dans les séminaires que Heidegger a donné en 1934-1935, où il est sur Hegel, la philosophie du droit d'Hegel, mais où il est aussi question de Schmitt. Et bien, dans ces séminaires, on voit que Heidegger prend ses distances par rapport à Schmitt, qu'il critique sa conception du politique, axée sur la distinction ami-ennemi. Et on pourrait même voir au-delà de 1933-1934. Une prise de distance de plus en plus grande, parce que pour Heidegger, et là, ça c'est, voilà, ça c'est typiquement Heidegger, il y a toujours ce grand panorama où il embrasse toute l'histoire de l'Occident, etc. Il dit, voilà, Schmitt est trop romain, sa conception du politique est obsolète, parce qu'elle n'arrive pas à saisir l'essence du politique, qui est tout à fait autre chose. Alors pour Heidegger, c'est peut-être l'arrivée des nouveaux dieux, mais en tout cas, voilà, il critique assez clairement Carl Schmitt sur le concept de politique. Donc, à part ces quelques séminaires, ces lettres, il n'y a pas énormément de choses, mais voilà, ils sont pas politiquement, ils étaient peut-être proches au début, mais moins après. Je pense que plutôt, alors pour rester dans ce spectre politique, plutôt Ernst Jünger et Carl Schmitt étaient proches, Kojève aussi, vous voyez, mais Heidegger, non, il était assez retiré dans son cabanon, mais il avait d'autres liens, mais voilà. Mais il y a eu un contact, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, merci.
Merci. Serge Sûr.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord féliciter Monsieur Sommer pour un exposé, une présentation extrêmement stimulante. Stimulant, ça veut dire qui suscite des questions et qui suscite aussi parfois des objections. Alors moi, je voudrais me fonder sur l'énoncé. Seul un Dieu peut encore nous sauver. Et peut-être oublier Heidegger et Hölderlin pour évoquer une tradition ou une réflexion plus française, menée par des auteurs français. Au fond, il y a trois termes importants. Un Dieu, nous et sauver. Il me semble que vous avez surtout parlé du premier terme, c'est-à-dire l'apparition, la disparition, la nature, l'existence ou non de ce Dieu. Mais les deux autres questions sont également importantes. Qu'est-ce que c'est que ce nous ? et qu'est-ce que veut dire sauver. Mais à propos du Dieu, moi je me fonderai sur un propos d'Anatole France, qui est un auteur qu'on ne lit plus beaucoup et qui pourtant est de grand intérêt. Et il y a une sorte de dialogue philosophique dans un roman qui s'intitule « Sur la pierre blanche », où il a cette observation, ou un des intervenants a cette observation, c'est un petit peu un dialogue platonicien, mais à la différence de Platon, on n'aboutit pas à des conclusions. La chose reste ouverte, ce qui est normal pour un auteur sceptique. Et il dit « Chaque époque a les dieux qu'elle mérite ». Et au fond, on peut se demander s'il n'y a pas eu quatre générations successives de dieux. Il y a eu les dieux de la tradition, qui étaient le polythéisme, le paganisme. Il y a eu les dieux de la révélation, qui étaient plutôt le monothéisme. Et puis ensuite, il y a eu les dieux de la raison, qui étaient plutôt philosophiques. Et là, c'est Voltaire, avec le grand architecte ou le grand horloger. Et puis, et je dis ça sous le contrôle de Jean Beisler, il y a les dieux de la sociologie. Et là, c'est plutôt la religion de l'humanité. Et on peut se demander si, aujourd'hui, le dieu latent, ça n'est pas l'humanité. Et on en a des indices, comme le caractère sacré du droit humanitaire. Les juristes savent bien que le droit humanitaire devrait être placé au sommet de la hiérarchie, rejoindre peut-être là-dessus la pyramide, le sommet de la pyramide kelsenienne. Alors, il me semble que là-dessus, on s'éloignerait totalement de cette idée de nature. Il y a quelques semaines, nous avons entendu une présentation parlant de sauver la planète. En réalité, il ne s'agit pas du tout de sauver la planète, il s'agit de sauver l'humanité. Parce que si l'humanité disparaît, la planète survivra très bien. Il y a une biomasse qui continuera à exister. Et en réalité, lorsqu'on parle de la planète, on parle de l'homme. Comme le disait Pascal, la seule chose qui intéresse l'homme, c'est l'homme. Et donc, s'il y a une religion latente aujourd'hui, c'est celle de l'humanité. Voilà, je serais content d'entendre vos réflexions ou vos objections à ce sujet. Et puis, il y a deux autres termes. Nous et sauver. Qu'est-ce que c'est que ce nous ? Est-ce que c'est chaque individu ? Est-ce que c'est la collectivité ? Mais quelle collectivité ? L'humanité ou quelque chose de plus étroit ? Après tout, dans une conception un petit peu raciste, ça pourrait être un groupe singulier. Et Heidegger, de ce point de vue, n'est pas blanc-bleu. Et puis, sauver. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sauver ? Sauver de qui ? Sauver de quoi ? Pourquoi ? Voilà des questions qui restent tout de même posées.
Oui, des questions très difficiles. Alors, vous ne voulez pas que j'évoque Heidegger ou Heiberlin ? Alors, j'avais essayé de formuler les choses à partir de ce corpus-là, mais vous avez raison. Le « nous », alors je vais plutôt parler de « nous », et dans le propos de Heidegger est problématique. Parce que est-ce qu'il dit « nous », moi, Heidegger ? Non. Alors, est-ce qu'il dit « nous », l'humanité ? Sûrement pas. Hein. Pas Heidegger. Nous, les Allemands ? Non, peut-être plus à cette époque. Donc, mais en tout cas, ce qu'on pourrait voir, et ce que Heidegger pourrait nous dire encore aujourd'hui, c'est que si ce Dieu qui doit nous sauver peut arriver, c'est que ce nous doit changer aussi. Mais il ne peut pas changer tant que la technique domine. Voilà, c'est ce qu'en gros il veut dire. Bon, et après, les figures du divin que vous avez énumérées, à juste titre, je pense que, enfin, je ne suis pas sûr qu'elle, dans cette perspective, elle puisse donner accès à ce nouveau rapport à l'être qui permettrait l'arrivée de ce Dieu qui pourrait nous sauver. Donc, aussi bien le Dieu raison que les polythéismes, les monothéismes ou les droits de l'homme. Là, je pense que, dans la perspective que j'ai esquissée, toutes ces tentatives sont impuissantes en fait, à créer ce nouveau rapport à l'être. C'est le seul message, en quelque sorte, à Heidegger, c'est qu'il faut continuer de penser à l'être pour ouvrir la possibilité d'être sauvé par un Dieu dont on ne sait pas quel visage il va porter. Voilà. Donc, ce n'est pas très satisfaisant, évidemment, mais il faut savoir comme réponse, il faut savoir que Augstein, l'interlocuteur de Heidegger dans l'entretien, demandait aussi au début comment la philosophie peut intervenir dans le monde et transformer le monde, ou contribuer à transformer le monde. Et c'est à cette lumière, à la lumière de cette question, qu'il faut voir la réponse de Heidegger, non, et il faut penser, point. Et la philosophie ne peut rien, elle n'est pas légitime à agir, et il y a la philosophie qui n'est pas non plus une pure théorie, dans une certaine tradition qui remonte à Aristote et qui culmine chez Heidegger, c'est là une forme éminente de praxis, la philosophie. Donc voilà, pratiquons la pensée et nous verrons. Voilà. Mais...
Merci. Daniel Handler.
Merci, Monsieur le Président. J'ai trois questions. La première, c'est un peu en réponse ou en réaction un petit peu au propos de Jean Béchler et à la question de M. Trichet sur la question de savoir pourquoi est-ce que Heidegger a tellement impressionné. Ben, c'est pas compliqué, il a impressionné parce qu'il était quand même l'assistant de Husserl, il a repris le projet de Husserl, ce projet était parfaitement compréhensible dans l'histoire de la philosophie, l'étude de Husserl a apporté énormément de gens, énormément de choses à beaucoup de philosophes de tempéraments différents, y compris des philosophes rationalistes, analytiques, complètement bornés comme moi. Et la lecture soigneuse de Sein und Zeit apporte à ce genre de philosophe des lumières incontestables. Et on sort de cette lecture-là et de l'analyse de ce texte mais extraordinairement enrichi, équipé intellectuellement, y compris dans une perspective parfaitement rationaliste qui est la mienne. Donc, est-ce que, et je rappelle simplement l'anecdote, mais vous allez me dire si elle est exacte ou apocryphe, on m'a raconté que quand Sartre, justement, le jeune Sartre, est allé écouter Heidegger, en fait, il imaginait écouter Husserl. Et il lui a fallu plusieurs mois pour se rendre compte que Husserl ayant pris sa retraite, il avait été remplacé par Heidegger. Alors, je ne sais pas si cette première question, est-ce que vous approuvez ce genre de propos ? Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque ?
Donc, je vous remercie même parce que j'ai oublié de mentionner cet aspect. C'est l'élève le plus brillant de Husserl. Du fondateur de la phénoménologie. C'est aussi l'élève le plus infidèle.
Oui.
Parce que, voilà, l'élève hétérodoxe. Il a trahi Husserl sur le projet philosophique. Mais il ne faut jamais oublier que Husserl lui-même disait, bon, ça devait être 1919, 20, il disait, la phénoménologie, c'est moi et Heidegger. Mm. Voilà, c'est pour dire, voilà, là, c'est moi et Heidegger. Et là, alors, ce que j'ai un peu esquissé ici, c'est quand même le Heidegger, on va dire, un peu ésotérique, entre guillemets, hermétique. Mais il y a un Heidegger que, personnellement, je préfère, qui est le Heidegger des années 1920. C'est l'auteur de Être et temps. Et Être et temps, c'est quand même un ouvrage assez extraordinaire qui, je pense, qui reste toujours aujourd'hui extraordinaire, qui est toujours lu par les jeunes générations. Pour de multiples raisons. Alors, l'une de ces raisons, c'est que, à mon avis, Heidegger fusionne, en quelque sorte, dans Être et temps, la tradition grecque et une tradition chrétienne, mais sous une forme conceptuelle et de façon très, 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 très précise. On pourrait dire, et vraiment, on peut le voir si on lit vraiment, que Sein und Zeit, c'est une traduction mot à mot du corpus d'Aristote. Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, je pense que l'une des grandes qualités et qui en fait peut-être un génie, c'est plutôt sa lecture d'Aristote dans les années 1920, qui est extraordinairement innovante, créatrice, et mêlée à sa connaissance de la tradition chrétienne. Donc voilà, ça complique encore les choses. Mais voilà, c'est ça aussi Heidegger. Là, c'est vrai, voilà, Heidegger qui lit Hölderlin, lequel attend un dieu, ça peut paraître étrange. Mais c'est aussi intéressant, mais pour d'autres raisons, je dirais. Ben, il faut l'étudier, il faut l'examiner, le discuter, le critiquer, ça c'est ma position. Mais, voilà, le grand Heidegger, entre guillemets, on peut argumenter à raison que ce serait l'auteur d'Être et temps, 1927, avant 1933.
Si je peux donc rapidement poser mes deux autres questions, qui sont donc le deuxième Heidegger, celui dont vous avez parlé aujourd'hui. Alors, je continue de m'interroger sur cette pluralité. Comment est-ce qu'on distinguerait deux dieux différents. Je veux dire, Zeus et Athéna, on sait, bon, ben, il y a Zeus là, il a tel et tel attribut, Athéna est comme ça, elle a tel et tel attribut, on voit qu'ils sont distincts. Mais les dieux de Heidegger, dans leur pluralité, on ne voit pas ce qui distingue finalement. Ils ont l'air de se promener dans un état d'identité non identifié. Donc ça, c'est ma deuxième question. Et ma dernière, comme ça vous pourrez enchaîner, en fait, est très, très banale. Seul un dieu peut nous sauver. C'est une pensée d'une banalité extraordinaire. Enfin, on pense tout ça. Enfin, pour différentes raisons, quand on s'arrache les cheveux, on se dit seul un dieu peut nous sauver. Et donc, en un certain sens, on est un petit peu déçu, enfin, du vague de la réponse à cette question banale, parce que Heidegger lui-même nous dit ben, je ne peux pas vous dire, je peux juste, on peut s'y préparer. Mais comme on n'a aucune idée de la forme de ce dieu ou de ce que serait son message ou son intervention, bah, on est un petit peu comme tout le monde, quoi, finalement.
C'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais quand même, alors, derrière cette phrase, voilà, ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'on peut déplier tout le système de Heidegger, son rêve d'une religion, etc. Donc, voilà, évidemment, on peut dire que c'est Cicéron. Cicéron a dit la même chose, Heidegger, etc. Mais, et c'est vrai, peut-être que c'est la chose ultime qu'on peut dire quand on est, on en est arrivé à ce point, quand on est dans un bourbier pareil, si je peux dire, une situation difficile comme celle d'aujourd'hui, peut-être, on peut dire juste ça. Voilà. Mais alors, ce qui peut être intéressant, c'est de déplier ce qu'il y a derrière, dans le cas de Cicéron, peut-être, mais aussi dans le cas de Heidegger. Et là, on tombe sur le problème assez, là aussi épineux, de la pluralité des dieux, l'unicité du dernier dieu. Je dois vous avouer que moi, je suis très perplexe à la lecture. Heidegger fluctue souvent. Et, alors j'ai essayé de comprendre pourquoi il y a plusieurs dieux. Et, alors, peut-être de façon un peu générale, je veux dire, voilà, du moment où il attend des dieux ou un dieu, ces dieux sont difficiles à distinguer. Voilà. Alors, on ne sait pas s'il y en a un, s'il y en a plusieurs. Alors, il y en a un, il y a une divinité, et il y a plusieurs dieux. Voilà, ça, on peut dire. Et ce qui vient compliquer encore, et ça, je ne vais pas mentionner parce que non, on ne sortirait pas, il y a des notules de Heidegger du début des années 50 où il dit. Alors, ça, c'est peut-être. Les oreilles sont plus ouvertes pour ça aujourd'hui à notre époque, je ne sais pas. C'est, le dieu est une déesse. Alors ça complique encore les choses. Vous voyez, je trouvais ça intéressant. Je voulais faire un jour un séminaire sur le dieu est une déesse, mais bon, je n'ai pas fait. Voilà. Mais c'est des questions ouvertes. Je trouve que c'est assez original pour un penseur husserlien à l'origine de se retrouver dans une pluralité de dieux, d'essayer de penser un dernier dieu. C'est assez étrange. Mais voilà.
Je vous remercie. Je me permets de me donner la parole à moi-même pour d'abord une observation et ensuite une question. Vous avez fait allusion au fait que Heidegger était, enfin, Monsieur Heidegger, hein, pour faire allusion à une formule de Nietzsche. On dit, ce qui est important, ce n'est pas Monsieur Nietzsche, mais etc. Bah, bon, Monsieur Heidegger était quand même d'origine catholique, pas seulement chrétienne, mais catholique. Et ce qui est assez important, d'abord parce que c'est finalement peut-être le premier, si je ne me trompe, philosophe allemand qui ait été d'origine catholique. Alors, il y a des philosophes autrichiens. Bon. Par exemple, bon, Bolzano, Brentano, Meinong, bon. Wittgenstein, je crois, avait été baptisé catholique, je crois, hein, d'origine d'une famille juive, mais d'origine, baptisé catholiquement. Donc c'est le premier philosophe allemand, hein, au sens de ce qui s'appelle maintenant l'Allemagne, qui ait été d'origine catholique. Leibniz était protestant, Kant était protestant, Fichte et Schelling, bon, étaient finalement des pasteurs à l'origine. Bon. Et ainsi de suite. Husserl, bon, d'origine juive, s'était fait baptiser protestant, etc. Donc, il y a peut-être déjà quelque chose d'intéressant en ce sens qu'il avait une sorte de rapport spontané, si je puis dire, à la scolastique. Ça, c'est Léo Strauss qui l'a fait remarquer. Hein. Bon, jusqu'où on peut aller dans cette direction, je n'en sais rien. Le deuxième point, c'est qu'il a été effectivement toute sa vie en débat avec cette origine catholique qui était extrêmement profonde. Son père était sacristain de l'église du petit patelin Meskirch du sud du pays de Bade. Où, bon, à son propos, il y aurait une histoire, je ne sais pas si elle est connue. L'église de Meskirch avait été disputée entre les catholiques romains et les gens qui s'appelaient, et qui existent encore d'ailleurs, les vieux catholiques, c'est-à-dire les catholiques qui n'avaient pas accepté les conclusions du concile, du premier, évidemment, concile du Vatican. Donc il y a eu un conflit qui est allé devant les tribunaux, et ce sont les catholiques romains qui ont gagné. Il a donc fallu que le prêtre de l'église de Meskirch, qui était vieux catholique, donc considéré par les Romains comme hérétique, ou en tout cas comme schismatique, rendent les clés de l'Église, clés dont il avait la possession. Et il n'a pas voulu rendre les clés aux sacristains, parce que bon, c'était un aveu d'échec, et il a trouvé comme moyen de rendre les clés au petit Martin Heidegger, qui était encore en culotte courte, je ne sais pas quel âge il avait, peut-être 8-9 ans. Bon, donc, il faut se représenter comme ça. Enfin, cette vision symbolique est très, très, extrêmement forte. Enfin, le petit Heidegger, porteur des clés, enfin, bon, ayant une position presque pétrinienne par rapport à ça. Alors, évidemment, il s'est battu contre son origine jusqu'à une haine qui s'exprime dans des lettres, par exemple, et où il y a une lettre, par exemple, où il avertit le responsable, je crois, des étudiants national-socialistes dans les années 30, faites attention aux catholiques, je connais leur tactique, il faut... Donc, il s'est vraiment renversé d'une manière assez extraordinaire. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est cette idée de... d'un Dieu qui peut nous sauver, mais d'un Dieu qui est peut-être, d'une certaine manière, aussi notre création. Il y a une tradition allemande, vous y avez fait allusion, une tradition allemande qui est assez ancienne, de l'intention de créer une nouvelle religion. Il existe aussi des tentatives de créer un nouveau Dieu. Alors, créer une nouvelle religion, bon, vous avez mentionné le plus ancien système, enfin le programme de système de l'idéalisme allemand, où il est effectivement question de créer une nouvelle religion. Ça se termine par un esprit supérieur envoyé par le ciel, fonder parmi nous cette nouvelle religion. Elle sera la dernière grande œuvre, la dernière œuvre, la dernière plus grande œuvre, œuvre de l'humanité. Bon. Donc il y a une tradition allemande. On a même on a cru deviner que c'était le projet de Goethe lui-même. Il y a eu un livre, il y a une dizaine d'années, je crois, qui a essayé de montrer que derrière la théorie des couleurs, eh bien, il n'y avait rien de moins que la fondation d'une nouvelle religion. Alors, fonder une nouvelle religion, à l'époque où le plus ancien système programme a été rédigé, donc, 96-97, on parlait trois de Tübingen, on ne sait pas trop qui a été le rédacteur, mais enfin bon, il y a trois thèses, hein, puisqu'il y avait trois auteurs possibles, donc alors ça va, ça vient. Tantôt c'est Hegel, tantôt c'est Schelling, tantôt c'est Hölderlin, bon, voilà, un peu importe. Mais à l'époque, créer une nouvelle religion, c'était une chose courante. Penser à la théophilanthropie, penser déjà à la religion civile de Rousseau, à la fin du contrat social, alors la théophilanthropie, enfin tous les cultes révolutionnaires, etc. Créer un nouveau Dieu, c'est évidemment un peu plus difficile. Il n'y a guère qu'Auguste Comte qui s'y soit essayé. Mais dans son cas, la religion et le Dieu coïncide. Donc, créer une nouvelle religion et créer un nouveau Dieu, c'est pareil, puisque c'est la religion de l'humanité qui s'auto-célèbre, si l'on peut dire. En revanche, il y a quelque chose de nouveau dans la formule de Heidegger, enfin, formule qui peut être considérée effectivement comme banale si on retire l'article indéfini. Seul Dieu peut nous sauver. Bon, Dire, tout chrétien pense cela, ou alors il ne l'est plus. Bon. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que, à ma connaissance, on a des pensées philosophiques du salut, bon, qui n'impliquent pas nécessairement une divinité. Enfin, le dieu de Spinoza est fort peu divin, d'une certaine manière. On a des pensées du salut qui sont philosophiques sans Dieu. On a des pensées d'un nouveau Dieu, ou même d'un Dieu ancien qui n'est pas du tout salvateur, comme le Dieu d'Aristote. Et c'est intéressant qu'il y ait cette idée d'une religion nouvelle, d'un Dieu, mais d'un Dieu salvateur, d'un Dieu sauveur, pardon. Et ça, je me demande si ça a une généalogie. Est-ce que vous en avez quelques traces ?
Alors,
se sauver soi-même, bon, le projet de se sauver soi-même, bon, il suffit de chanter l'Internationale pour comprendre que c'est, en tout cas, il est possible de le souhaiter. Hein. Bon, il n'est pas de sauveur suprême, etc.
Merci pour la mise en contexte, la question. Mais alors, la généalogie, peut-être pas. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses dans ce rêve d'une nouvelle religion qui n'appartiennent qu'à Heidegger, sans doute. Mm-hmm. Mais le fait qu'il y ait cette dimension de salut, mm-hmm, dans le cas d'Heidegger, va plutôt rapporter à sa notion de sauvegarde, mm-hmm, voilà. Et dans la mesure où en fait, ce qui intéresse presque plus Heidegger que le dieu ou les dieux, c'est l'être, évidemment, puisque les dieux, dans sa perspective, qui est une perspective hollandienne, c'est les dieux ont besoin de l'être pour apparaître. Mmh. Voilà. Donc tout doit être mis sur l'être. Mais il faudrait effectivement creuser, peut-être qu'il y a quand même d'autres généalogies. Je pense qu'elle irait plutôt, oui, dans le sens de, on pourrait la trouver chez Hölderlin, peut-être plutôt. Mais, dernière remarque à vos remarques, peut-être, sur le catholicisme de Heidegger, il ne faut pas oublier qu'il a été peut-être un peu protestant pendant une dizaine d'années. Mmh. Voilà. Et donc ça complique encore la discussion qu'il s'impose à lui-même avec ce qu'il appelle dans une lettre à Karl Jaspers, mmh, de 1935, je crois. C'est l'une des deux échardes dont il parle dans cette lettre. Et j'ai deux échardes. C'est la première, c'est l'échec du rectorat, donc écharde politique. Mm-hmm. Deuxième écharde, c'est ma foi initiale, la foi de l'origine, donc catholicisme, christianisme, protestantisme, mm-hmm, donc théologie. Et on pourrait voir un peu comme ça, avec ces deux échardes, on a toute la problématique théologico-politique de Heidegger et avec quoi il doit se débrouiller, en quelque sorte.
Merci infiniment. Bon, écoutez, nous terminons sur cette ouverture, enfin, cette invitation à interroger plus avant ce personnage bizarre. Donc, on peut le dire, un Sonderbar Rockhaus. Hein, bon. Voilà, merci infiniment encore.
Je rappelle la remise des prix franco-taïwanais dans une demi-heure.